Bienvenue, bienvenue dans Cogit Pop, ce petit labo d'éducation populaire en train de se faire. Troisième émission d'une série qui propose comme outil politique pour muscler notre autodéfense intellectuelle, l'arpentage, ou plutôt le micro-arpentage, puisque nous avons 26 minutes, autant dire très 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 peu de temps, pour pratiquer cet outil politique. Alors on va s'emparer d'une citation et voir ce qu'elle nous fait à plusieurs. Et aujourd'hui, pour la troisième édition, on est avec Jade. Salut Jade.
Salut.
De l'association La Fougue, enfin du collectif La Fougue. Et Seb, salut Seb.
Bonjour.
Que tu te décrirais de...
De plein de manières différentes.
Voilà, Seb, de plein de manières différentes. Merci d'être là. Alors, on va rappeler, comme à chaque fois, hein, un peu ce que c'est que l'arpentage. Et puisque c'est toi, Seb, qui est venu avec une citation sur laquelle nous allons réfléchir ou en tout cas parler, c'est à toi de nous dire comment tu vois l'arpentage, ce qu'est pour toi l'arpentage.
Alors, je vais essayer d'être rapide. D'abord, l'arpentage, c'est la découverte à plusieurs d'un livre. On va le lire ensemble. Souvent, ça prend plus de temps, pas 26 minutes, mais au moins 2 heures. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement au Vence, au planning familial. Et là, pour diffuser, partager cette pratique, on a eu l'idée donc de proposer un micro-arpentage. On va pas lire à plusieurs un livre, mais une citation. Ce qu'il va y avoir de commun, c'est la manière de rebondir sur une phrase, alors que normalement on rebondit sur quelques pages, souvent une dizaine, qu'on lit à plusieurs. Et on va le faire en 3 temps. On va d'abord réagir sur ce qu'on a ressenti en termes d'émotion, parce que c'est quelque chose qu'on fait rarement, en tout cas que l'école nous a pas appris quand on lit, d'être attentif à ce qu'on a ressenti. Ensuite, on va se focaliser sur une idée, mais pas une idée en mode bon élève de « j'ai compris ce que l'auteur ou l'autrice a voulu dire », mais plutôt une idée que ce que le texte ou la phrase nous donne à penser. Et dans un troisième temps, parce que c'est un outil politique d'émancipation, on est dans la tradition de l'éducation populaire politique, qu'est-ce que ça pourrait changer notre pratique? Parce que voilà, lire des choses, avoir des idées, c'est bien gentil, c'est la théorie, mais une théorie militante, souvent, c'est une théorie qui peut nous aider à mieux vivre et à mieux s'organiser, donc avoir aussi cette attention aux effets pratiques des idées qu'on partage et qu'on lit ensemble.
Mmh. Et tu avais donné comme petit mémo un acronyme AIE.
AIE, ouais. Alors, affect, moi c'est un mot que j'aime bien, mais c'est les émotions, les affects, une idée, et qu'est-ce que ça change dans l'existence. Donc ça fait
AIE. Dans l'expérience.
Dans l'expérience. Donc voilà, le petit côté un peu rentre-dedans aussi, les chocs et les rencontres perturbantes, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, ça peut être salutaire et faire du bien.
Ok, et eh ben allez, on est 3, donc on te laisse.
Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi une phrase écrite par Noémie Grunewald dans un très beau livre qui s'appelle « Sur les bouts de la langue, traduire en féministe ». Et voilà ce que Noémie nous dit. « Si les interprétations proposées par les hommes et ou les blancs, les blanches, les bourgeois, les bourgeoises, les hétérosexuels, fin de la parenthèse, je reprends début, sans lire la parenthèse, si les interprétations proposées par les hommes peuvent être si partielles et faussées, ce n'est pas en raison d'une incompétence essentielle, mais parce que le confort des positions socialement dominantes permet l'économie de nombreux questionnements. Est-ce que vous voulez que je la relise une deuxième fois ?
On s'envoie une petite virgule et on la relit une fois.
Noémie Grunewald nous propose la phrase suivante. Si les interprétations proposées par les hommes peuvent être si partielles et faussées, ce n'est pas en raison d'une incompétence essentielle, mais parce que le confort des positions socialement dominantes permet l'économie de nombreux questionnements. Et je vous propose de réagir sur... Est-ce que ça vous fait en termes d'émotion, une phrase comme ça ?
Eh ben, moi, ça me fait plutôt du bien. Je trouve que ça résume en relativement peu de mots quelque chose que j'ai déjà eu en tête. Mais du coup, je trouve ça me fait plaisir.
Oui, moi aussi, c'est la première émotion. Mais alors, du coup, je m'en méfie un petit peu parce que, justement, je trouve ça confortable pour moi. Peut-être parce que j'ai l'impression que c'est une émotion qui est partagée. Voilà. C'est assez paradoxal.
Ouais. Alors moi, forcément, si je l'ai choisi, c'est plutôt parce que c'est une phrase qui m'enthousiasme. Et ce que j'aime bien, c'est son équilibre. Parce que, voilà, je ne vais pas rentrer déjà dans l'idée, mais je trouve qu'à la fois, elle arrive à bien, bien appuyer là où ça fait mal, et tout en amenant une subtilité qui, d'une certaine manière, rend ça encore plus fort. Donc, c'est ouais, une forme d'excitation intellectuelle, pour ma part.
La subtilité dont tu parles, est-ce que tu veux nous la dire maintenant ou tu laisses pour la deuxième partie?
Ah, je pense que ça m'engage sur l'idée, donc...
D'accord.
Un petit teasing. J'en dis pas plus.
Ok. Mais après, mais sur l'affect, enfin, je sais pas si toi, ça te, tu veux encore réagir là-dessus.
Non. Enfin, voilà, pareil, enthousiasme et intérêt.
Mais c'est vrai que ça paraît. En fait, ça me paraît très très complet. Alors peut-être que toi, tu parles d'équilibre. Et effectivement, ça, c'est très complet. Ça englobe bien. C'est vrai que c'est une bonne. Une bonne citation, enfin une bonne définition de ce qu'est ces, enfin de ce que sont ces paroles, alors on pourrait dire de dominants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas à se préoccuper de, voilà, de ceux qui ne vont pas à se préoccuper d'autres choses d'ailleurs, peut-être.
Mais est-ce que tu veux enchaîner sur l'idée là, parce que je sens que justement, d'une certaine manière, tu vas vers ça.
Alors, y a quelque chose de, enfin, je répète, hein, de très complet. Non, je sais pas. Je passe. Est-ce qu'on peut passer?
Tout à fait. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, j'avais un peu bousculé l'ordre, mais ça, on peut. Ouais. Mais du coup, Jade, si tu veux commencer.
Oui. Et ben, du coup, je sais que c'est un livre qui parle de traduction. Je l'ai pas lu, mais. Et du coup, j'ai l'impression que dans cette phrase, ce qu'elle dit, ça peut concerner... Enfin, c'est plus large que ce domaine-là de la traduction. Ça parle de, j'ai l'impression, aussi s'exprimer sur des thématiques, des questionnements qui nous concernent pas directement et où, du coup, on va peut-être être moins pertinent ou en tout cas être... Parce qu'on n'est pas concerné et qu'on ne le vit pas dans notre chair, eh ben, on... Même si on peut être compétent parce qu'on a du savoir, des savoirs froids, et ben par contre, il nous manque un truc, quoi, en tant que dominant, je parle.
Intéressant, ouais. Cette question, c'est vrai que sur le bout de la langue, sur les bouts de la langue, ouais, cette question de la traduction et de la place, de comment on fait pour se mettre à la place d'autres. Comment on parle à la place, comment on peut parler à la place des autres alors qu'on n'est pas les autres. Et ne pas oublier qu'on ne l'est pas. Ne pas oublier qu'on ne l'est pas, ouais. Je sais pas, tu veux réagir?
Ça fait écho à ce que vous dites. Moi, il y a deux mots qui me donnent beaucoup à penser, c'est l'idée d'incompétence. Déjà, j'aime bien... c'est là où pour moi elle est subtile, parce qu'elle dit, ok, l'incompétence n'est pas essentielle. Donc voilà, elle essentialise pas, mais elle parle quand même bien d'incompétence. Donc c'est pas l'idée que les dominants seraient des gens forts, compétents, etc. Non, ils sont incompétents, donc ça au moins c'est réglé.
Et est-ce que tu peux juste, pour les auditrices, auditeurs, pour qui c'est pas forcément évident, justement, de préciser cette idée d'essentialisation?
Oui, bah, ça voudrait dire qu'en fait, en fonction d'une caractéristique, donc par exemple le fait d'être blanc ou d'être un homme, on serait naturellement voué, destiné, rivé à quelque chose. Si c'est essentiel, on ne peut rien y faire, même en apprenant, même avec une autre éducation. Donc c'est l'essentialisme est une forme de fatalisme. C'est un peu, enfin, c'est une pensée assez, on pourrait dire, politiquement désespérante, qui est une tradition quasiment, enfin, absente des luttes politiques. Parce que si on est essentialiste, ça veut dire qu'on n'a rien à changer, puisque les choses ne peuvent pas changer. Donc souvent, c'est un peu, on va dire, c'est pas une pensée compatible avec un désir de changement, une émancipation. Donc il y a de l'espoir. Ils sont incompétents, mais c'est pas une fatalité. Et puis le fait d'associer ça à une absence de questionnement aussi, je trouve que ça renverse pas mal le truc par rapport toujours à cette idée que les dominants, c'est des gens qui savent, etc. Et là, finalement. Peut-être qu'ils savent des choses, mais comme tu as dit, une forme de savoir froid, etc. Et donc souvent, c'est un savoir de type récitation, ou le savoir des dominants qu'ils ont retenu à l'école. Et c'est pas ce savoir de la vie qui est plus, voilà, des questions, des rencontres, le fait d'être obligé de se poser des questions parce qu'on est socialement dominé aussi, hein, l'épreuve de la nécessité. Et j'aime beaucoup, moi, cette idée de valoriser le questionnement, forcément, les problèmes. Enfin, non, pas forcément. Par ailleurs, j'aime bien la philosophie, donc c'est pour ça que je dis forcément. Voilà, j'aime bien les problèmes et tout. Et le fait de dire que, voilà, les positions qui arrivent à dire des choses sur le réel, c'est les positions où souvent on a été un peu forcé de se questionner. Et ça, que c'est pas forcément, c'est pas quelque chose dont on a à se plaindre, ou c'est pas triste. Enfin, c'est pas pour positiver le fait d'être dominé, hein. Mais il y a vraiment une force, il y a une force sociale qui aussi éloigne le discours qui pourrait être un peu pessimiste ou victimaire dans les analyses de la domination. C'est aussi pour moi une phrase qui donne du courage et une image de soi qui est hyper revalorisante de la belle manière.
Ça renverse les pouvoirs, ou en tout cas ça les ouvre. L'idée, c'est de ne pas laisser les hommes blancs dominants humilier sans savoir ou quoi, mais c'est d'ouvrir au contraire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de revanche. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas quand je dis il y a un renversement des choses. Non, en fait, il y a plutôt une ouverture pour tout le monde. C'est plutôt ça. Mise en pratique, peut-être, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose sur. Est-ce que tu peux la relire?
C'est ce que j'allais proposer justement. Parce que les idées peuvent venir au fur et à mesure, et c'est vrai que comme elle est un tout petit peu longue, si les interprétations proposées par les hommes, et ou les blancs, les blanches, les bourgeois, les bourgeoises, les hétérosexuels, peuvent être si partielles et faussées, ce n'est pas en raison d'une incompétence essentielle, mais parce que le confort des positions socialement dominantes permet l'économie de nombreux questionnements.
Oui, bah moi, ça, pour moi, ça parle effectivement du privilège qu'on a en n'étant pas confronté à certaines oppressions, donc dans l'idée d'oppression systémique, des discriminations, en n'y étant pas confronté, on n'a finalement pas accès à tout un tas de vécus, et donc ouais, et donc ça rend effectivement faussé des points de vue, parce qu'ils sont pas basés sur. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Mais peut-être l'idée est pas forcément. Enfin, on peut ne pas arriver à se mettre à la place de l'autre, mais faut juste le savoir et laisser la place à l'autre alors. C'est-à-dire que on peut pas adopter de tous les points de vue quelquefois. Enfin. Pouvoir dire, là, je ne peux pas, sans doute tu vis quelque chose de différent, sans doute tu. Moi, je n'y ai pas accès. Hein, je peux faire un effort, mais je n'y ai pas accès. Et simplement se retirer, ne pas donner. Voilà. Ne pas donner un avis ou ne pas affirmer quelque chose si on ne sait pas.
On pourrait presque dire que c'est les personnes qui se posent le moins de questions qui ont le plus de réponses. C'est un peu ça le problème dominant, enfin, je trouve, par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire, non seulement la vie ne les a pas forcés à se poser des questions, on peut prendre aussi l'exemple de l'hétérosexualité, hein, dans la parenthèse. Si on sent qu'on a un désir hétérosexuel dans une société hétéronormative, ah, tout va bien, on ne se pose pas de questions. Mais si en plus de ça, on vient faire taire ou brimer la parole des personnes qui sont dans des sexualités qui les amènent à la souffrance, à de la stigmatisation, etc. Ou en tout cas, elles ont à lutter pour faire valoir la légitimité de leur orientation sexuelle. À minima, ce serait d'être capable d'écouter et, a fortiori, de pas juger, de pas brimer, de pas considérer qu'il y a de la déviance, parce que souvent, c'est un vocabulaire qui devient vite très oppressif. Ouais, on pourrait dire que ça amène à beaucoup d'humilité. Aussi, d'être méfiant vis-à-vis de tout ce qu'on n'a pas questionné, faute d'avoir été confronté à des difficultés de vie.
Oui, ça vient critiquer, j'ai l'impression, comment fonctionnent beaucoup de sphères du pouvoir, le fait que dans certaines sphères politiques, ce soit que des hommes qui se retrouvent à légiférer autour de l'avortement, par exemple, c'est questionnant et effectivement, enfin, moi je trouve que c'est problématique à cet endroit-là, oui. Enfin, c'est un exemple.
On passe au troisième moment.
On passe à la pratique. Qui veut s'y coller? Je regarde Jade.
Ben, alors, moi, ça m'a amené à me dire que, enfin, ça me pose cette question de, comment dire, quand on a envie de porter des voix qui sont pas les siennes, des voix minorisées, ce qui est le cas, j'ai l'impression, à la fougue, où on a envie de faire entendre des récits différents de ceux de la norme dominante. Mais du coup, quand on n'est pas concerné par ces vécus, voilà, ça pose des questions de justesse, etc. Et ça m'invoque la radio aussi, qui est un vecteur de parole. Et donc, je trouve cette phrase hyper, comment dire, pertinente à plein d'endroits. Ça me donne envie de l'écrire dans mon bureau et d'arpenter ce livre de manière plus globale. J'ai l'impression que j'avais jamais eu cette façon de voir les choses que, oui, dans la traduction, selon qui on est en tant que traducteur, traductrice, bah on a un point de vue, ce qu'on appelle un point de vue situé, et du coup, on ne va pas utiliser les mêmes mots pour traduire. Enfin, je trouve ça, j'ai trop envie de lire la suite.
Et oui, pour moi, évidemment, pour la radio, c'est comment on laisse, et c'est aussi un travail reste toujours à continuer, c'est comment on donne à entendre d'autres voix que la sienne. C'est le propre de la radio, c'est le propre des émissions, mais vraiment même au-delà de ça, d'aller même en amont de ça. Que par exemple, moi c'est très confortable, je pose les questions. Sauf que quelquefois, si les réponses sont. Ben, les réponses vont forcément découler des questions. Donc j'ai un pouvoir terrible. Et donc l'idée c'est aussi de mettre en place. Enfin, c'est à continuer, mais en tout cas ça me fait vraiment réfléchir là-dessus, sur comment donner la parole aux gens, mais avant tout leur permettre de poser les sujets et les questions. Qu'ils soient. Voilà.
J'aime beaucoup cette idée de remettre, moi ça me parle aussi, les questions en avant, c'est-à-dire prendre au sérieux que le plus important, c'est peut-être pas tant de permettre d'avoir les réponses qu'on souhaite, mais de poser les questions qui nous paraissent importantes, enfin en termes de pouvoir politique. Et me concernant, la réflexion pratique, ça vient réveiller, c'est une vieille question chez moi, c'est la question du confort. C'est aussi un mot qui est dans la phrase. Et je trouve que ça pourrait être. J'aime bien ne pas laisser au capital ou au patriarcat des mots qu'il a bafoués. Et sortir de sa zone de confort, c'est devenu quasiment une injonction management. Voilà. Et on pourrait dire que là, sortir de sa zone de confort, dans le sens donné par cette citation, ça ne devient pas un défi individualiste de se surpasser, de je ne sais pas quoi, mais juste être capable d'entendre des voix qui peuvent être inconfortables pour nous parce qu'elles nous font entendre le ou la privilégiée qu'on est, les parts de dominantes en fonction des rapports de domination en nous. Et ouais, le confort, c'est de pouvoir être sourd, on pourrait dire, quand on est dominant, et s'arracher à ce confort qui peut être violent, mortifère, etc. Ça prendrait un sens non pas de défi héroïque et viriliste, mais au contraire d'écoute active et de capacité à aller et à rendre possible les voix différentes, les voix minorées. Et c'est un peu ça que j'aurais envie de garder comme un mantra. C'est comment tu te débarrasses presque de ce confort qui t'a été collé en tant que dominant et qui te rend un peu, finalement un peu solitaire, un peu éloigné de toute une diversité d'existences et de trajectoires sociales.
Et tu as des pistes de comment faire pour te...
Bah, par exemple, en organisant des ateliers d'éducation populaire politique, je trouve que c'est des beaux moments de rencontre. Mais même là, bon, on va pas rentrer dans les questions sur la communication, mais c'est des vraies questions politiques. Quand on organise des ateliers d'éducation populaire, on est souvent confronté à une forme d'entre-soi social. C'est-à-dire que ça va être
Complètement.
des profils, des trajectoires de vie qui sont intéressés par ces questions-là et qui sont déjà des fois conquises ou convaincues. Et voilà, c'est un sacré défi, je trouve, d'aller à la rencontre de personnes différentes de soi, parce que la société favorise pas ça du tout, les rencontres et l'altérité sociale.
Et de moins en moins à la fougue, c'est aussi des questions, puisque vous organisez, donc on n'a pas reprécisé, tu peux peut-être le faire, on a encore quelques minutes, tu peux peut-être juste redire ce qu'est la fougue.
Oui, c'est une association qui existe depuis 2019 et qui propose en effet des ateliers aussi d'éducation populaire, des stages, des événements, et puis qui notamment porte une bibliothèque féministe, queer, enfin voilà, qui a plutôt qui met en avant des thématiques autour des questions d'oppression justement, et dans l'idée de faire entendre, ou en tout cas faire lire des récits minoritaires, donc précisément dans cette idée-là, un peu de, alors non pas de mettre des claques littéraires, mais en tout cas un peu de secouer dans un sens les gens qui vont avoir ces livres entre leurs mains, parce que ça vient voilà, faire réaliser des choses que notre confort de dominant n'a pas en tête, forcément.
Et est-ce que la question des publics, ben, je trouve que c'est vraiment une question fondamentale, hein, ça tourne autour de ça, vraiment de l'altérité, finalement. On revient, c'est ce que tu disais aussi, voilà, sur la traduction, c'est comment on fait avec l'altérité, comment on donne la place vraiment à l'altérité, comment on l'entend, et si on n'arrive pas à l'entendre, dire qu'on n'arrive pas à l'entendre, et lui laisser la place et ne pas parler dessus. Est-ce que toi, sur ces questions-là, enfin toi ou vous, à la fougue, vous rencontrez aussi ces difficultés de parler, d'échanger avec des publics variés ou pas ?
Si, bien sûr, oui, il y a cette question de l'entre-soi, elle se pose, elle s'est toujours posée, et bah, oui, elle est un peu irrésolue. Enfin, on a cette envie-là, effectivement, d'ouvrir et de faire en sorte que, justement, les espaces qu'on propose, ils permettent la rencontre de vécus différents. Mais non, j'ai pas forcément une recette miracle.
Moi, j'ai pas de recette miracle sur les personnes qui viennent, mais j'en profite parce que c'est un peu l'état d'esprit de l'émission pour faire des louanges de l'arpentage comme outil, parce que ce qui est intéressant et ce que j'ai souvent constaté, presque toujours, c'est que paradoxalement, l'arpentage, on vient pour écouter la voix d'un auteur ou d'une autrice. Donc on pourrait se dire, bah, tu risques pas d'entendre les gens parler, puisque d'emblée, tu leur mets un livre entre les mains. Mais en fait, justement, c'est souvent un très bon support, parce qu'en fait, les personnes, avec la technique justement de qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça te donne à penser, qu'est-ce que ça pourrait changer, sont vraiment amenées à faire entendre leur voix. Et c'est souvent plus facile de passer par la médiation de comment je rebondis à quelque chose que j'ai lu, que d'arriver devant quelqu'un, de poser un micro en disant « j'ai envie d'entendre ton ressenti ou ton vécu, vas-y, parle !» Parce qu'en fait, ça peut être encore une injonction qui peut faire beaucoup penser à un oral scolaire, qui peut être très intimidante. Et c'est vrai que pour ça, l'arpentage est assez, assez précieux et efficace, parce que finalement, le livre, les idées du livre sont comme un support où justement les voix se font plus facilement entendre, parce que c'est pas toujours évident aussi. Quand on a été dominé et oppressé par une société, on n'a pas très envie. Des fois, il y a aussi des techniques de défense qui se sont construites et qui sont tout à fait normales. Et donc voilà, quand il y a quelqu'un qui dit « mais si, tu peux parler, ici, on est dans un espace sécur », il y a de la méfiance et qui, ouais, voilà, qui se comprend en fonction des trajectoires de vie de chacun et de chacune.
Ben pour terminer, on peut peut-être inviter les gens à se renseigner, parce qu'il va y avoir un prochain arpentage là, au mois de février au Vence, c'est ça ?
Oui, peut-être même dès fin janvier. Ça va être le féminisme pour les 99%. Trois autrices, un livre avec 12 thèses très, très simple, très efficace, très incisif, qui est devenu un classique anglophone. Et voilà, donc ce sera un mardi soir comme souvent, mais j'ai pas encore la date, ce sera fin janvier. Mais l'information circulera dès qu'on en saura plus.
Eh ben merci beaucoup. Il y a des arpentages qui sont prévus, non ?
Non, pas, mais ça me donne un peu cette envie-là d'en organiser prochainement et de venir à celui qui sera proposé.
Ben merci beaucoup. Seb, pour ta... Tu nous la relis juste une fois.
Je peux redonner déjà le nom de l'autrice. Noémie Grunenwald, sur les bouts de la langue. Et on peut terminer effectivement par la citation. Je vais la lire sans la parenthèse pour qu'elle soit un peu plus concise. « Si les interprétations proposées par les hommes peuvent être si partielles et faussées, Ce n'est pas en raison d'une incompétence essentielle, mais parce que le confort des positions socialement dominantes permet l'économie de nombreux questionnements.
Merci beaucoup. Vous pouvez nous retrouver les 2e et 4e dimanches de chaque mois à 11h ou sur le site fréquence7.net. Et merci Clara pour la réalisation de cette émission. Ciao.